petits ou grands, enfants ou géants, petits frères ou grand-mères, voici l'heure des oreilles buissonnières. Bonjour à vous, chères oreilles buissonnières. Dites-moi donc, sauriez-vous me donner la recette d'un bon et beau dessert? Bon, parce qu'un dessert sans surprise se doit de l'être, mais beau aussi parce que rien n'est plus triste qu'un dessert sans couleur, sans ses petits parasols chinois, ses ornements de fraises des bois, sa pluie de paillettes et de sucrètes. Tenez par exemple, n'est-ce pas merveilleux qu'un beau fondant au chocolat d'un noir profond, surmonté de ses écorces d'orange vive et de sa cerise rouge grenat? Beau et coloré, en faire pâlir les passants derrière la vitrine de ces pâtisseries si lumineuses qu'elles sont à elles seules un défilé de costumes gourmands, une farandole de carnaval alléchant, bref, un vrai spectacle fascinant. Mais alors justement, si nos pâtissiers sont des artistes de miels et d'épices, qu'en est-il de nos artistes de scène cachés dans leurs coulisses? Bref, je vous le demande aujourd'hui, quels seraient les ingrédients d'un beau spectacle? C'est Julie Serpinet, metteur en scène et interprète, qui nous ouvrira les rideaux de cette question.
Pour moi, les ingrédients d'un beau spectacle, il faut que ça fasse rire ou que ce soit triste, sinon on s'ennuie.
Il y a des gens qui veulent faire rire, d'autres qui font de l'humour, d'autres qui font des histoires fantastiques.
Il faut que ce soit aussi réaliste et... Avec beaucoup d'imagination pour vraiment faire ce que soit bien.
Ceux qui font le spectacle, ils doivent être joyeux, pas montrer aux gens qu'il est malheureux. Mais enfin, si c'est un spectacle malheureux, oui, mais si c'est un spectacle heureux, il faut montrer la joie.
Il faut que ça soit humoristique, un peu magical, musical, quoi.
Faut que tout ça aille avec la même chose, parce que si à un moment on parle de tarte à la fraise, qu'après on parle de patinoire, ça veut peut-être rien dire, ça.
Faut qu'il y ait des bons micros, des bons décors, des bons metteurs en scène, s'il y en a, et faut surtout pas que les gens s'ennuient.
Déjà, faut bien savoir son texte, et qu'il soit rigolo ou...
Comme pour montrer ses talents, il faut s'entraîner chaque fois par jour, quoi.
C'est déjà être bien préparé, de savoir son texte à perfection. Et après, on peut rajouter des petits détails comme la décoration ou faire rire les gens avec le texte.
Dans les spectacles, il n'y a pas toujours des textes. Il peut avoir des mimes.
On peut avoir des spectacles de danse, d'opéra, de chansons. Enfin,
il y a différents spectacles. Il y a par exemple des spectacles d'hip-hop.
Si on veut vraiment faire un beau spectacle, on pourrait mélanger les styles, ce qui rend beaucoup plus joli le spectacle.
Un beau spectacle, il peut être mélangé de musique, de mimes, d'animaux ou plein d'autres trucs.
Et par exemple, il peut y avoir des comédies musicales, c'est-à-dire que en fait c'est un peu un spectacle, mais le spectacle, il le fasse en chantant.
Des fois, un spectacle, on peut prendre, s'il y a quelqu'un, des autres personnes, ils l'ont déjà fait, on peut le prendre et le modifier, on peut mettre d'autres personnages, pour que ça fasse un peu plus rigolo. Et
des fois, quand ils ont un spectacle de prévu, ils vont sur scène et comme ils n'ont pas écrit de texte, ils improvisent.
Moi, je pense qu'un spectacle, pour qu'il soit réussi, il faut qu'on comprenne l'histoire, qu'il fasse bien comprendre l'histoire au spectateur.
Si on a un décor, le décor, c'est plus joli quand on le fait à la main que si on l'achète.
Il faut qu'il y ait une petite touche personnelle.
Un spectacle, pour qu'il soit beau, il faudrait que tout le monde participe et que le maximum, c'est qu'on s'amuse et qu'on oublie le reste. On essaye de vraiment être dedans et vraiment écouter.
Je pense que ça dépend aussi des personnes qui regardent le spectacle. Parce que les personnes qui regardent le spectacle, ils peuvent avoir des différentes émotions.
Des nouvelles idées que personne n'a jamais vues nulle part, tout ça.
Au premier spectacle, il faut qu'il y ait beaucoup de gens, comme ça après ils vont en parler à tout le monde et le spectacle, il va avoir plus de spectateurs de plus en plus.
Parce que moi, si je regarde un spectacle qui me plaît, ça me donnerait plus envie de faire un spectacle.
Les comédiens, faut qu'ils aient du plaisir à faire, à présenter un spectacle.
Un spectacle, c'est un spectacle pour que ça donne envie d'en regarder d'autres, de lire et de faire plein de trucs, de dessiner, de lire, de faire un peu créer l'histoire.
Ma cheminée est un théâtre où l'on ne joue qu'un seul auteur, le feu. J'ai pris ma place devant l'âtre, c'est un spectacle pour les vieux. J'adore me régaler de flammes, j'ai pris assez de bûches pour ça. C'est mon harem de jeune femme, mon corps de ballet d'opéra. J'ai pris ma place devant l'âtre, ma cheminée est un théâtre. Regardez-les, les chaudes gamines, batifolées à qui mieux mieux. Je leur sers des serments de vigne, ça leur fait dresser les cheveux. C'est bien le moins que je leur dois, elles m'ont assez brûlé les doigts. Je deviens le metteur en scène de ces flamencos fastueux, parfois lascifs, jamais obscènes, que je me paie à petit feu. Le feu raconte des histoires, illuminant la nuit des temps. Je connais tout le répertoire de ce génie incandescent. Le feu est un vieux compagnon, le plus ancien des militaires, le cinéma de Cro-Magnon et la télé de Tocqueville. Me voici parmi mes aïeux, fauteuil d'orchestre au coin du feu. Ma cheminée est un théâtre, un vrai théâtre rouge et or. Pour vous plaire, il se met en quatre, brûle les planches et les décors. Mais quoi, j'ai dû fermer les yeux dans le bois de trousse cerise. Le festin s'éteint peu à peu, de mon théâtre ne reste que des braises dans la poudre grise. Des braises dans la poudre grise. La flamme savent s'entendre, ils se ressemblent tant, tous deux. Dresseurs de feu, laisseurs de cendres, feu le feu.
Ma cheminée d'un théâtre, c'est le titre de cette chanson de Nougaro. Avez-vous remarqué, en effet, comment le feu peut vous obnubiler les yeux, oubliant soucis et tracas ennuyeux? Alors oui, vous me direz, le feu, c'est ni laid ni beau, mais c'est si envoûtant, un peu comme un spectacle hors du temps. Alors si le feu est un théâtre aux ingrédients mystérieux, quels sont donc les ingrédients d'un beau spectacle pour vous, Julie Serpinet, qui êtes artiste, metteur en scène et interprète?
C'est une vaste question.
En effet.
Les enfants y répondent assez bien. En premier lieu, on pourrait se poser la question de qu'est-ce qui est beau et qu'est-ce qui n'est pas beau. Ça touche forcément la question du spectateur et de la réceptivité du spectateur. Et ça touche forcément la subjectivité du spectateur. Ce qui veut dire qu'il y aura autant de beaux ou de pas beaux spectacles selon les spectateurs qu'il y a. Donc, C'est sûr qu'on peut se baser sur l'esthétique du spectacle, et dans ce cas-là, on va suivre des courants. Ce qui était beau en 1900 n'est plus beau maintenant, et inversement. Après, on peut aussi se baser sur, un dénominateur commun qui puisse traverser les cultures et qui puisse traverser le temps, qui est la donnée humaine, où là, du coup, si on parle d'homme à homme, avant d'un artiste ou d'une esthétique à un homme, et ben du coup, on va pouvoir dialoguer, communiquer. Et donc, à mon sens, un beau spectacle, ça va être quelque chose qui, effectivement, parle à tout le monde, quel que soit son âge, quel que soit son origine culturelle, quelle que soit son époque. Si on pouvait voyager dans le temps, il faudrait tester ça. Mais c'est vrai que c'est intéressant, par exemple, de jouer le même spectacle sous plein de latitudes différentes et de se rendre compte qu'il n'est pas perçu pareil, mais que n'empêche que voilà, ce qui reste valable, les parties du spectacle qui restent valables un petit peu de partout, sont souvent les parties qui parlent à tout le monde, justement. Et d'accord. Donc voilà, j'ai l'impression que le beau, ça peut être ça, ça peut être le fait qu'on touche à un dénominateur commun humain, en fait.
D'accord, mais il n'y aurait pas un beau qui existe en soi, une esthétique qui serait belle dans tous les cas?
Ben non, ça n'existe pas, puisqu'il y a autant de personnes que de réceptions du beau, donc
c'est comme le feu, voilà. C'est comme le feu dans la chanson, il n'est ni laid ni beau, et quelque part c'est ce qu'on y met soit à travers le feu qui fait qu'il y a une histoire qui se crée.
Exactement, ouais, c'est vraiment la réceptivité qu'on peut avoir.
D'accord.
En tout cas, en tant que spectatrice, voilà, si je vais voir un spectacle par rapport à une esthétique, je vais cadrer ça. Alors que si j'y vais de manière ouverte, ben justement, je vais m'imprégner de ce qui moi me parle et qui va forcément du coup que je vais considérer comme beau pour moi. Peut-être mon voisin considérera pas ça comme beau, mais en tout cas c'est comme ça que je vais le percevoir. C'est que à certains moments ça va faire de la résonance avec moi et du coup je vais percevoir le spectacle par ce biais-là, par ce biais de la résonance, en fait.
Donc il faudrait surtout pas aller voir un spectacle avec des œillères, des cadres préétablis pour aller voir ce que l'on attendrait d'avance.
Bah ouais, ce serait dommage parce que du coup on serait justement dans du préjugé et pas dans de la réceptivité.
Donc on ne pourrait pas parler de beaux spectacles, peut-être de spectacles réussis ou peut-être pas non plus, qu'est-ce que vous diriez?
Alors, spectacle réussi, moi je pense qu'on pourrait en parler de manière très objective sur quelles étaient l'intention du metteur en scène et est-ce que ces intentions sont réalisées. C'est-à-dire, est-ce qu'en tant que spectateur, on comprend ses intentions?
D'accord.
Mais du coup, ça reste vraiment encore du dialogue, c'est-à-dire que vous avez voulu faire ça, monsieur le metteur en scène. Ah ben moi j'ai pas du tout reçu ça comme ça. Ah tiens, c'est rigolo. Ben alors peut-être qu'il faudrait que je le fasse dans tel timing ou dans tel espace, ça serait mieux perçu ou différemment perçu en tout cas plus proche de l'intention que je voulais y mettre au départ. Mais c'est en ça où effectivement il y a pas de spectacle réussi ou pas réussi, parce que selon le spectateur, il y en a un qui va dire qu'il est réussi et l'autre va dire qu'il n'est pas réussi.
D'accord.
D'où un peu l'inutilité de la critique à mon sens, effectivement.
Mais alors si je vous entends, il y aurait quand même l'idée que selon les spectacles, il y a des intentions différentes pour les metteurs en scène ou les chorégraphes, des effets escomptés qui ne sont pas les mêmes d'un spectacle à l'autre?
Non, c'est sûr. En tout cas, dans mon approche du spectacle, et je pense que dans beaucoup de mes collègues, l'idée de faire un spectacle, c'est d'avoir envie de dire quelque chose à un public et pas seulement à soi-même, parce qu'on travaille toute la journée dans nos locaux. Au moment où on décide de faire de notre matière de travail quelque chose de montrable aux autres, c'est qu'on se pose la question de qu'est-ce qu'on veut leur dire à ces autres-là. Donc à partir du moment où on met en scène, c'est qu'on a envie de dire quelque chose, que ce soit de l'ordre de l'imagination, de l'ordre de l'émotion, de l'ordre du rêve, d'amener du rêve. Il y a beaucoup d'enfants qui parlent de l'humour et de faire plaisir. Il y a cet ordre-là aussi dans certains spectacles. En tout cas, moi, c'est aussi ma conception de mes spectacles, de donner un temps un peu hors temps, justement, un peu comme le feu, qui va transformer, transporter le spectateur dans un autre monde pendant un certain temps. Il va y avoir aussi des spectacles où l'intention du metteur en scène, ça va être de donner quelque chose de très social ou de politique à son propos.
Enfin, donc, très engagé.
Très engagé, voilà. Donc ça va vraiment dépendre de l'envie du metteur en scène. Mais a priori, si on fait un spectacle et qu'on le fait pas dans ses toilettes, c'est qu'on le fait pour quelqu'un et donc pour un spectateur qui doit le voir, l'entendre, le lire, en tout cas le percevoir, quoi.
Bien sûr. Donc les ingrédients seraient-ils différents ou pas selon les types d'effets escomptés?
Oui, ouais, forcément, on va changer d'ingrédients en fonction de ce qu'on a envie de dire.
Alors, de la farine, des œufs, du chocolat, qu'est-ce que vous
mettez? C'est sûr, forcément, quand on veut faire un gâteau au chocolat, on va y mettre du chocolat, mais si on veut faire un gâteau au marron, il va falloir qu'on y trouve du marron, quoi.
Bien sûr.
Alors le truc, c'est que justement, quand on fait un gâteau, on sait que le marron a ce goût-là. Quand on fait un spectacle, il va falloir un peu inventer les goûts des choses, parce que ben, des fois elles existent, des fois elles n'existent pas, ou des fois on les connaît, des fois on les connaît pas. Par exemple, ça m'est arrivé moi, il y a quelques années, d'avoir envie de dire des choses que je pouvais pas dire avec mon corps directement. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il fallait que je le dise à travers la marionnette. Et donc, j'ai dû me former à la marionnette à ce moment-là, parce que j'avais plus de possibilité que de le faire. Enfin, j'avais que le biais de la marionnette pour le dire.
D'accord. Donc, il y avait d'autres ingrédients qui étaient plus pertinents.
Voilà, exactement. Qui étaient plus adaptés au propos, justement, à ce que je voulais dire. C'est-à-dire que je voulais faire du gâteau au marron, mais j'avais encore jamais trop goûté le marron, mais il fallait que je m'y colle à ce marron-là pour pouvoir le dire correctement et faire un vrai gâteau au marron et pas un gâteau au chocolat avec une couleur de marron, quoi.
D'accord. Donc il n'y a pas de recette en soi à suivre stricto sensu. Chaque gâteau est différent, chaque spectacle est différent.
Exactement, ouais, exactement. Et après on le goûte ensemble, parce que souvent quand on est artiste ou metteur en scène, bah, c'est aussi au moment où on le présente, même si ça fait des mois et des mois qu'on pense la chose, qu'on travaille la chose, c'est toujours à l'instant T, c'est du spectacle vivant, et donc c'est toujours au moment où on présente le spectacle. Ben, qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent pas, qu'il y a des choses à réajuster, que la dramaturgie est pas tout à fait bonne. Enfin voilà, il faut retravailler en fonction aussi de la perception du public qui change à chaque fois, parce que chaque jour est différent et que chaque spectateur est différent.
Et ces ingrédients, est-ce qu'il y en a d'autres ? Parce que vous parlez de la marionnette, donc là on est dans un objet par exemple, un accessoire. Est-ce qu'il y aurait d'autres ingrédients ? Parce que les enfants parlent de décor par exemple, des bruitages.
Oui, alors, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses dans les ingrédients. Enfin, je séparerais les ingrédients disciplinaires, on va dire. C'est-à-dire justement, ils en parlent très bien, la danse, le théâtre, l'opéra, la musique, le hip-hop. Ils vont parler des styles, qu'on peut mélanger les styles. Effectivement, on est de plus en plus sur des spectacles avec des arts mêlés. On mêle de plus en plus les choses. On a de moins en moins de cases, comme il y avait à l'époque de Louis XIV avec l'Académie de danse, l'Académie. On est moins là-dessus. Maintenant, c'est de plus en plus des choses qui se mêlent. Mais n'empêche que quand on se pose la question, par exemple, du son d'un spectacle, et ben effectivement, on va penser, est-ce qu'il faut du silence ? Est-ce qu'il faut qu'on fasse appel à un musicien, à deux musiciens, à trois musiciens ? Est-ce que c'est de la musique enregistrée ou est-ce que c'est de la musique live, vivante, avec des musiciens sur scène ? Est-ce que ça va être du son ? Est-ce que le son, ça va être du son qu'on va collecter avec un créateur sonore ? Est-ce que c'est du son qu'on va créer avec des petits instruments, des petites choses sur scène en direct ? Est-ce que c'est les enfants qu'on va inviter ou les adultes qu'on va inviter à faire créer avec nous ? Donc, ce sont toutes des questions, voilà, de quel ingrédient, quel moyen on utilise pour exprimer ce qu'on veut dire. Donc voilà, la marionnette, la danse, donc ça reste des disciplines, mais n'empêche que telle discipline va pouvoir exprimer telle chose alors que l'autre ne l'exprime pas forcément.
D'accord. Et si je vous entends, on est sur des ingrédients qui sont pas uniquement gustatifs pour le goût, mais aussi de l'ordre de l'ouïe, peut-être de la vue, peut-être quoi encore ?
Eh ben tous les sens. C'est vrai que moi, je me suis posé la question pas mal dans mes spectacles d'amener de l'odeur. Donc on a tout le temps quasi depuis les débuts de la compagnie, donc depuis 1998, on a tout le temps des odeurs dans les spectacles. Mmh. Voilà, parce qu'on appréhende le spectacle par ses sens et que forcément, le sens de l'olfaction fait partie du jeu, quoi. Donc, bah oui, ça fait partie des questions. Mais même le goût, c'est vrai que quand on mange quelque chose pendant qu'on regarde un spectacle, d'un seul coup, on a le corps qui s'ouvre différemment. On a les sens qui s'ouvrent différemment. On a des spectacles, nous, qui se passent en caravane où on donne à manger aux gens. Et tout de suite, on sent qu'il y a une intimité différente qui se crée, par exemple.
Donc l'idée, c'est de rendre l'individu le plus poreux possible.
Oui, ouais, parce que comme ça, du coup, on communique plus facilement, évidemment. Alors après, évidemment, qu'on va pas demander aux spectateurs d'être poreux si nous-mêmes on ne l'est pas, parce qu'à un moment donné, il faut qu'on soit sur le même pied d'égalité. Mais voilà, c'est vrai que l'idée de, souvent, on vient en tant que spectateur d'une certaine façon, parce qu'il y a des codes aussi d'accès au spectacle. Souvent, dans les salles, on nous dit de faire ci, faire ça, etc. Et bah par exemple, justement, en parlant d'ingrédients, les ingrédients art de rue, la discipline art de rue, qui est nommée art de rue dans les différents endroits, permet une certaine intimité qu'on va pas forcément trouver ailleurs. Donc avec des entresorts, avec des choses où justement les gens rentrent dans une caravane, ils sont 5, 6, 7, 8 spectateurs pour deux artistes. Et là, on va pouvoir faire des choses qu'on peut pas se permettre de faire avec 300 spectateurs, par exemple.
Oui, puis du coup, d'utiliser des lieux, des infrastructures qui ne sont pas celles du théâtre habituel, de l'opéra habituel, peut-être un coin de rue, peut-être je sais pas, une fenêtre. Voilà.
Et du coup, forcément, les gens qui viennent voir ce spectacle sont pas forcément non plus les habitués des salles. Ce sont d'autres personnes qui ont pas forcément vu beaucoup de spectacles dans leur vie aussi. Donc ça aussi, c'est intéressant parce que du coup, il y a pas cette notion justement forcément d'esthétique, mais plus de réceptivité en fait. On est très vite justement dans de la réceptivité et pas du jugement. Il y a ce mélange et cette diversité. Ben, qui permet aussi cette diversité de jugement, de réceptivité et de voilà et d'échange aussi. C'est-à-dire que les gens ressortent, ils ont vécu quelque chose. Quand les autres rentrent, il y a une sorte d'échange. Ah, mais t'as vu ça? Moi, il s'est pas passé ça. Comment ça se fait? Enfin, il y a aussi du coup une création d'échange à l'extérieur même du spectacle. En fait, les gens échangent entre eux. Donc c'est ça aussi qui est rigolo, c'est qu'on provoque autre chose que juste le propos qu'on voulait tenir. On provoque de la rencontre à l'extérieur en fait.
Donc pour vous, ce serait presque ça, entre guillemets, le beau spectacle, c'est celui qui génère un partage, un échange, même si ce n'est que dans les regards, par exemple ?
Ben ouais, ça pourrait être ma définition du spectacle, même s'il y en aurait plein d'autres, mais ouais, un beau spectacle, ça pourrait être ça, ça pourrait être le fait que les gens se regardent un peu différemment avant qu'ils rentrent.
D'ailleurs, les enfants le disaient tout à l'heure, ils parlaient de plaisir de jouer, de plaisir aussi de recevoir, et du coup, peut-être ça donne envie de créer soi-même, de lire à une petite fille d'un
moment.
Oui,
la curiosité, j'ai adoré ça, parce que c'est vrai que, enfin, en tout cas, moi, en tant que metteur en scène, si j'arrive à provoquer ça chez un spectateur adulte ou enfant, bah, je pense que j'ai gagné ma journée en fait, parce que bah voilà, si le fait d'avoir vu un spectacle que j'ai fait provoque une envie de créer ou une envie d'aller voir d'autres choses chez la personne, c'est bingo quoi. Enfin, c'est qu'on a ouvert les gens à plus, donc c'est parfait.
Ça veut dire que ça crée un espace de liberté intérieure supplémentaire chez les gens. Mais alors justement, moi, ça me ferait rebondir sur le spectacle dans les états totalitaires où il me semble-t-il. Il n'y a pas tellement de réflexion, d'imagination, d'espace ouvert pour chaque individu, mais plutôt une vision des choses très fermée.
Ben c'est là où justement, à mon sens, on restreint au beau et pas beau, c'est-à-dire que ce qui est dans le sens de l'État va être beau, et ce qui ne va pas aller dans le sens de l'État va être classé comme pas beau, simplement parce qu'à ce moment-là, on est justement sous un État qui décide du beau et du pas beau, mais qui est l'État pour décider pour les gens de qu'est-ce qui est beau et qu'est-ce qui est pas beau, et qu'est-ce qui leur parle et qu'est-ce qui leur parle pas, parce qu'il y a tellement de choses qui évoluent dans notre vie. Et il y a des choses qui nous paraissent belles quand on a 5 ans, qui nous paraissent plus belles quand on a 10 ans et rebelles quand on a 15 ans. Enfin, et même entre hier et aujourd'hui, il y a tellement de choses qui changent que ce serait dommage que quelqu'un d'autre que nous puisse dire qu'est-ce qui est beau et qu'est-ce qui n'est pas beau quand même.
Donc de la même manière que les rideaux s'ouvrent lorsqu'on démarre un spectacle, le spectacle ne doit pas refermer les idées, la pensée, mais plutôt les ouvrir.
Bah ouais, moi ce serait ma définition du spectacle en tout cas.
D'accord. Alors si je vous entends, eh bien on a vraiment le sentiment qu'une vie intérieur exprimé avec son imaginaire et son cœur, né de vos spectacles. Alors on espère en voir
avec
très bientôt. D'ailleurs, écoutons plutôt cette jolie chanson.
Je n'étais qu'un petit garçon, j'étais tout seul à la maison. Mes parents, pour un soir, étaient allés voir un opéra. J'en avais pour un bon moment, ça n'arrivait pas si souvent. C'était comme une trêve, c'était comme un rêve, comme l'opéra. J'étais dans un château fort, j'avais une épée en or. Je me battais comme un fou, par amour pour vous. Je me battais comme un roi, par amour pour toi. Je n'étais qu'un petit garçon, mes paroles étaient des chansons. Il n'y avait ni tambour ni baryton pour mon opéra. Mais dans mon imagination, il y avait 10 000 violons qui jouaient ma victoire, faisaient de ma gloire un opéra. Et j'étais dans un château fort, j'avais une épée en or. Je me battais comme un fou, rendant coup sur coup. Je me prenais pour un roi, par amour pour toi. Et devant l'enfant que j'étais, toute la maison devenait une scène, un décor, et c'était alors mon opéra. Je m'endormais sur les trois coups, qui n'étaient peut-être après tout qu'un volet qui battait quand il revenait de l'opéra. Mais j'étais dans mon château fort, et j'avais mon épée en or. Je me battais comme un fou, par amour pour vous. Je me battais comme un roi, par amour pour toi. Je n'étais qu'un petit garçon, j'étais tout seul à la maison. Mes parents pour un soir étaient allés voir un opéra.
C'était l'opéra de Yves Dutheil, un opéra de boucliers en carton, d'épées en bois, de capes en torchons et de châteaux en Lego. Des ingrédients de fortune, certes, mais peut-être le levain indispensable d'un spectacle vivant et vivace. Le levain du désir, le levain de l'avenir, le levain de la joie d'imaginer, de créer, de soulever des montagnes du bout de son épée. Alors peut-être que si tu ouvres la valise des vieux déguisements cachés dans ton grenier, tu découvriras de sacrées trouvailles. Mais avant, avant, chère oreille buissonnière, à propos de valise, écoute cette histoire. Dans la rue sombre et vide, ce soir, il n'y a plus que Léon. Il marche vers la sortie de la ville. Il dépasse sa rue, sa maison et celle de sa vieille mère. Il longe les hangars et la station-service. À 18h précises, sous la lune blanche, les toits de l'usine d'Étainville sont devenus de terribles dragons aux grimaces tordues. Et tout le monde a préféré très vite rentrer chez soi. D'habitude, Léon traîne dans les rues en rigolant, le nez en l'air, oubliant la fatigue et l'heure, mais jamais ses copains. Surtout Jojo. Un jour, Léon a sauvé la peau de Jojo près du métal en fusion. Ils ont eu très chaud. Léon marche. L'usine, celle qu'on aime ici depuis toujours et qu'on déteste depuis le même jour, a fermé ce soir. Plus de fumée, de grincements ni de grondements. Plus de travail. Léon arrive à la déchetterie. À côté d'un océan de bouteilles en plastique, pousse une ville aux gratte-ciels en carton vide. Parmi les détritus, il a bien du mal à se frayer un chemin. Il y a ici tout ce qui ne sert plus à rien ni à personne, tout ce qui perd le nord, comme Léon ce soir. Au loin, les cheminées ne disent plus rien. L'usine s'est définitivement tue, à 18h précise. Une valise abandonnée, rongée par la pluie, offre un siège de fortune à Léon. Il s'assoit et regarde autour de lui. Il écoute le silence de la vie. Mais de la valise montent soudain d'étranges bruits, des chuintements, des cliquetis, de lointains grondements de moteurs. Léon frappe trois coups sur le dessus, comme s'il s'agissait de la porte d'une maison habitée. Et sans attendre de réponse, il ouvre la valise. Un petit homme apparaît alors au bord de la valise et s'exclame : « Bienvenue, Léon ! Quelle bonne idée d'avoir frappé à notre porte ! Je suis le génie de la valise ! Il faut que tu me suives !» Sur ces mots, le génie entr'ouvre un grand rideau de velours rouge et d'un geste de la main invite Léon à entrer. Voilà notre grande famille. On la jette hors des villes. Elle est triste certains soirs, mais ne perd jamais l'espoir. C'est la grande famille du cirque. Entre, Léon. Léon soulève un pied et passe le rideau. Sous ses yeux s'étale un fabuleux méli-mélo de couleurs dans un désordre parfaitement ordonné. Le chapiteau, des dizaines de caravanes et de roulottes, des camions. Et puis Gwen, institutrice des enfants du cirque, Rififi, le vieux chien de garde à dentier, Vladimir et son dodo. Oui, un dodo qui sait grimper une corde lisse verticale. Il y a aussi Jean et Paul, frère siamois, Cécile, cuisinière et costumière, Micha, dompteur, tête de mort, le pirate ex-marin, et puis Totor, l'homme éléphant, et Nina, la femme ours, Luciano, le monteur de chapiteaux, et puis Victor qui jongle avec un poisson volant, Los Mosquitos de Barcelone, le spécialiste du trapèze volant à cheval, la femme la plus petite et la plus téméraire du monde, les frères Hurt, trio de contrebasse, Gontran, l'homme qui sait tout faire, Zélos et son cochon savon, et encore plus fort, Luna à la corde volante. Et puis, il y a la fanfare au grand complet sous la direction de Monsieur Edmond. Et puis, il y a aussi Abracadabranque des Carpates, Mieux vaut ne jamais voir sa photo si l'on ne veut pas faire des cauchemars chaque nuit jusqu'à la fin de ses jours. Jour après jour, Léon s'habitue à sa nouvelle vie et retrouve le sourire. L'usine est désormais très loin derrière lui. Il dort dans une caravane. Ça lui plaît d'avoir des roues sous sa maison et tant d'autres amis autour. Ils sont beaux comme les rochers, les forêts, les saisons, tous les chemins du monde où ils se sont perdus un jour. Léon rêve au grand voyage qu'ils feront peut-être ensemble si le cirque reprend la route. Ça lui plaît d'avoir tout cet espoir dans sa nouvelle maison. En attendant, il ne faut pas perdre la main. Toute l'équipe doit entretenir ses muscles, son moral et le matériel. Chaque jour, c'est répétition générale. Léon est chargé de nettoyer la piste entre chaque numéro. Du soir au matin, il a un balai à la main et ça lui plaît bien. Il ramasse avec minutie les poils de tigre avant que Luna n'entame son numéro de corde. Il récure les dents des éléphants et enlève avec soin les écailles de poisson sabre que Tête de Mort a laissé sur la piste. Léon est un peu l'homme à tout faire, lui qui ne se croyait plus bon à rien. Et peu à peu, le balai vole, trébuche, rebondit, son seau danse quand il le veut et il fait rire tous ses collègues quand il le renverse sur sa tête. Ses pirouettes attirent de plus en plus les gens du cirque et leurs enfants autour de la piste. Il leur refait les meilleures blagues de son ancien café du Bon Coin et ils s'en raffolent. Un soir, à la fin d'une répétition où ils ont beaucoup ri, ses amis décident de lui offrir un véritable nez de clown, rouge cerise. Une décoration officielle que Léon a bien méritée. Chaque fois que Léon croise Rose l'écuyère, elle lui fait l'effet de 200 chevaux lancés au galop et son cœur manque d'exploser. Mais depuis des mois, il a peur de l'aborder. Un soir de pleine lune, il ose enfin inviter Rose à manger des nouilles dans sa caravane. Et Rose accepte timidement. Ce soir-là, on a vu beaucoup de cœurs rouges s'échapper du tuyau du poêle au-dessus du toit de la caravane de Léon. Mais trop de félicité attire souvent les ennuis. Dès le lendemain, les foudres du magicien du cirque s'abattent sans prévenir. Rongé par la jalousie, abracadabranque des Carpates, le mal-aimé du cirque, celui dont tout le monde se méfie et que Rose a toujours fui, en a définitivement assez. Voilà 15 ans qu'il exécute le même numéro et il n'en peut plus. Il n'a su que faire s'évanouir les mémés devant sa bouillie de scarabée et pleurer les enfants quand il découpe des limaces avec ses dents. Qu'un clown s'empare en plus du cœur de Rose, c'en était trop. Juste avant l'heure de la répétition, abracadabranque des Carpates s'empare du livre interdit qu'il avait caché dans un sinistre placard, tout au fond de sa roulotte rouillée. Il choisit 3 sorts dans les pages les plus terribles et décide de les jeter tous les 3 sur Léon, le cirque et le monde entier. Sort numéro 1. Langue de moineau, cervelle de rat, le chapiteau tu détruiras. Ces mots à peine prononcés, une redoutable tempête se déchaîne sur le cirque. Une pluie de radis noirs et de cafards, suivie d'une tornade de cartes à jouer, que du pic. La toile du chapiteau s'accroche de toutes ses forces au piquet. Léon perd son nez, son bonnet de clown rouge cerise. Et 7 gaillards, ceux de la fanfare, armés de leur courage et de leurs instruments à vent, décident de rétorquer à la tempête. De tout leur souffle, avec leurs pistons et leur bravoure, ils font front à la diabolique pression atmosphérique. Après 3 heures de lutte effrénée, en respiration continue, la fanfare à bout de souffle chasse la noire tempête. Le chapiteau est sauvé, mais le magicien, lui, est furieux. Sort numéro 2. Vermine au beurre et tripe de rat, pas un seul cœur ne résistera. Abracadabranque des Carpates fait disparaître alors toutes les paillettes que Léon et Rose ont dans les yeux. Puis, dans la minute qui suit, les cœurs que tous les garçons et les filles du cirque ont dans la tête, pour que l'amour les ignore à jamais. Mais il en faut plus pour désespérer les filles et les gars du cirque. Les acrobates grimpent sur les échelles de la mort. Les contorsionnistes montent sur les épaules des trapézistes qui montent sur les épaules des équilibristes. Et en quelques instants, une gigantesque pyramide permet aux funambules d'attraper très haut dans le ciel tous les cœurs rouges qui s'étaient échappés l'autre nuit par la cheminée de la caravane de Léon. Et ça fonctionne! Les acrobates et les cœurs tombent à pic sur le trampoline. Le deuxième sort maléfique est vaincu sans qu'une seule cheville ne soit tordue. Les cœurs sont à nouveau dans les yeux. Mais ceux du magicien, eux, sont noirs de colère. Sort numéro 3. Chacal puant, le fleuve du temps s'abaissera. À partir de cette heure, toutes les montres et les pendules se mettent à dérouler les minutes à contresens. Les balanciers des horloges rythment le temps à contretemps et tout marche à l'envers dans l'univers. Sur la piste, plus rien ne tourneront. Quelle pagaille! Les acrobates perdent l'équilibre, on ne voit que l'envers des décors, et Madame Roudoudou marche sur les mains, et le dompteur embrasse ses lions. Tandis que, à l'extérieur de la valise, un énorme bulldozer travaille sur la décharge. Subitement, il se met à reculer. Et son conducteur, c'est le vieux Jojo. Le temps a passé, et le chanceux a retrouvé du boulot. Mais il a beau être chef de son bulldozer, sa marche arrière poursuit sa route. Sa route vers la valise. Alors le génie de la valise apparaît en criant « Stop ! Arrêtez ! Cette valise contient un trésor !» Mais le bulldozer recule encore. On a beau être un génie, on ne réussit pas tout dans la vie. Puis, à 30 cm de la valise, l'engin s'immobilise brusquement. Une petite boule rouge bloque le bulldozer. C'est un nez. Un nez de clown rouge cerise. De l'autre côté du rideau rouge, dans la valise, Gontran sort de sa poche la grande scie avec laquelle le magicien a coupé en 3 morceaux plus d'une spectatrice. Sans hésiter, Gontran scie alors abracadabrangue des Carpates en 3 morceaux, parfaitement égaux. Mais les 3 morceaux se transforment en poissons ricaneurs. Tête de mort s'en empare et jongle avec en les faisant voltiger plus haut que le chapiteau. Dans les airs, les poissons se changent en lapins. Mais la femme la plus petite du monde les attrape au vol, les avale un à un et devient instantanément la femme la plus grande du monde. Il ne reste sur le sol que 3 crottes de lapins. C'est Léon qui débarrasse la piste d'un magistral coup de balai. Le magicien disparu, le temps se suspend un bref instant. Puis il reprend sa course dans le bon sens, le passé avant le présent et l'avenir juste en suivant. Les gens du cirque applaudissent leur exploit commun. Léon et Rose se sourient longuement. Vaincre un tel magicien donne de l'assurance, du muscle et de l'allégresse. Le génie de la valise bondit et propose aux gens du cirque d'ouvrir grand le rideau rouge et de reprendre enfin la route. Le chapiteau est démonté, les camions chargés, les roulottes amarrées, et la caravane du cirque sort lentement de la valise. Elle traverse la déchetterie sous le regard éperlué du vieux Jojo qui se cache derrière son bulldozer. Le cirque est sur toutes les routes du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Partout, tête de mort, Léon et son balai, la femme la plus grande du monde, Gontran et tous les autres sont acclamés. Dans chaque pays, on tremble pour les acrobates, on rit pour les clowneries, on rêve pour les écuyères. Et le clou du spectacle, c'est quand le public réclame un magicien. Alors Léon raconte qu'on l'a transformé en 3 lapins. Puis le génie entre en piste. Une vieille valise à la main, et lance. Bonsoir, mesdames, bonsoir, mesdemoiselles, bonsoir, messieurs. Il ouvre la valise, et clic, clac, en un clin d'œil, le cirque disparaît. Voilà, c'était Le plus grand des petits cirques de Aurélia Grandin et Fred Chapota aux éditions Rue du Monde. Alors, puisque dans les vieilles valises se cachent des trésors, des magiciens, des matadors, si tu allais fouiller les mystères de salles cachées en poussière et du grenier de ton grand-père? C'est sur ces mots que je vous laisse, chères oreilles buissonnières. En attendant de vous admirer, danser, jouer, chanter, valser sur la scène de votre enfance, entre quatre chaises et un rideau de circonstance, les joues grimées, les yeux brillants, le trac immense et les oreilles en partance. En attendant, remercions les artistes d'un spectacle buissonnier, celui d'une émission préparée avec Julie Serpinet, metteur en scène et interprète, Raphaël Terribilet aux manettes son et lumière, Sylvère Petit au montage, et moi-même, Donatienne Ranc. Chères oreilles buissonnières, je vous dis à très bientôt.